qui était usité dans les sociétés entières, anciennes, et que les Hébreux, imitateurs des païens, que certains Hébreux, imitateurs des païens, pratiquaient. Jérémie donne contre eux cette erreur de croire que c'était cela qui avait été demandé à Abraham. Le plaidoyer de ces Hébreux paganisants, sacrifiant leur fils à Moloch, parce que c'est cela le véritable sacrifice à Dieu. Et le plaidoyer était, mais c'est bien cela qui avait été demandé à Abraham. Eh bien, voici ces trois versets du prophète Jérémie. Le premier verset, c'est le verset 31 du chapitre 7, que je vais vous lire simultanément en hébreu et en français. Et ils ont, ces hébreux paganisants, aujourd'hui je dirais, j'entends bien que mon langage commence à être dur, ces juifs christianisants, ou banu bamot à Tophet, et ils ont construit les autels de l'abomination, Asher Bege ben Hinnom, qui se trouve dans la vallée du fils de Hinnom. C'est de là que viendra le nom de Gehinam, l'enfer Gehinnom. L'Israf et Benéhem, pour brûler leurs fils, Ved Benotéhem et leurs filles, Baesh, par le feu. Asher Lotziviti, chose que je n'ai pas ordonnée, Velo Altar Livi, et à laquelle je n'avais jamais pensé. Dit Jérémie, prophète hébreu. Prophète. Le deuxième verset qui revient sur le même thème, c'est le chapitre 19, verset 5. Où Banu, et ils ont construit, Bamot à Baal, les autels du Baal, L'Israf et Benéhem Baesh, pour brûler leurs filles, leurs enfants, de par le feu. Olot la Baal, des holocaustes au Baal. Baal, c'est le nom de l'idole. Dans la troisième citation, on l'appellera par son nom, c'est-à-dire Moloch. Asher lot ziviti, chose que je n'ai pas ordonnée, velo di barti, j'en ai jamais parlé, velo alta libi, et j'y ai jamais pensé. Et troisième verset de Jérémie, chapitre 32, verset 35. Vaïvnou et Bamot à Baal. Et ils ont construit les autels du Baal, Asher Bege ben Hinnom, qui se trouve dans le Gehinam, qui se trouve dans la vallée du fils de Hinnom. Les Haavir et Benehem et Notehem la Molech, pour faire passer, sous-entendu par le feu, leurs fils et leurs filles au Moloch, au principe du pouvoir auquel on se sacrifie pour l'amadouer. Enfin, parenthèse pour expliquer ce rite païen. Asher, l'autre civitime, chose que je ne l'avais jamais ordonnée, velo alta libi, de nouveau à laquelle je n'ai jamais pensé, la rasot à toeva azot, de faire une telle abomination, le ma'an à hati et Yehuda, afin de désigner Judas comme coupable. Vous voyez comme, je traduis littéralement, vous voyez comme toutes ces choses nous sont déjà enseignées depuis avant les commencements. Je voudrais vous lire le commentaire de Rashi sur la première des citations que j'ai faites. C'est donc le verset 31 du chapitre 7 de Jérémie. Je reprends le verset. « Ubanu bamot atofet » et ils ont construit les autels de l'abomination, Asher Bege ben Hinnom, qui se trouve dans la vallée de Gehinam, l'Israf et Benéhem ved Notéhem Baesh, pour brûler leurs fils et leurs filles par le feu, Asher lot ziviti, chose que je n'ai pas ordonnée, velo altar libi, et à laquelle je n'ai jamais pensé. Rashi dit ceci. L'otziviti, qu'est-ce que ça veut dire, chose que je n'ai pas ordonnée? Bemitzvot, je ne leur ai pas donné de commandement comme cela, chez Yakrivu Bnehem les Korban, qu'ils offrent leurs fils en sacrifice. Velot dibarti, et je n'ai pas parlé, les Ahad Minaneviim, je n'ai parlé à aucun des prophètes à ce sujet-là, que c'est cela qu'il faut faire. Ou que j'ai dibarti les Abraham, ajoute Rashi, et lorsque j'ai parlé à Abraham, l'Ishrot et Beno, pour égorger son fils, lo alta al-libi chez Ishrot, je n'ai jamais pensé à lui demander qu'il le sacrifie. Et là, Léodiar Tzitko, mais simplement à faire connaître sa vertu, qu'il aurait été capable de le faire. Et là, nous nous référons donc aux analyses des premiers jours et surtout des cours du matin sur le Midrash Rabbah. Il y a eu épreuve. Es-tu capable de ce korban? Mais jamais Dieu n'a demandé cela à Abraham. Il a demandé l'épreuve, mais pas le sacrifice. Ceci, je pense que, vous savez, dans la tradition juive, l'autorité qu'Arachi, et nous revenons du point de vue de la méthode, si vous voulez, dans la cohérence des niveaux d'autorité de l'enseignement de la tradition juive comme telle. Et ce n'est pas une opinion de Rachi, c'est Rachi expliquant Jérémie. Et l'autorité derrière Rachi ici, c'est Jérémie. Donc, c'est donc bien que même dans la société des Hébreux antiques, dans la société antique des Hébreux de l'Antiquité, il y avait ce risque d'erreur de croire que vraiment Dieu avait demandé cela à Abraham, et ils justifiaient par là leur pratique païenne du sacrifice à Moloch. D'autres commentateurs expliquent que c'est ainsi que les païens exprimaient leur ferveur vis-à-vis de Dieu. Que le sacrifice authentique, c'est le sacrifice du Fils, c'est dans leur amour de Dieu qu'ils sacrifiaient, de leur Dieu, de Dieu comme ils le concevaient, qu'ils sacrifiaient leur Fils, et que cela est pour le Dieu qui se révèle dans la Bible une abomination. Je pense que c'est bien clair, et j'ose pas dire c'est irréfutable, c'est écrit comme ça. Eh bien, j'ai donc analysé ce premier point, en rappel de cette première analyse, bien entendu dans la perspective de l'introduction au deuxième point. Et j'ai ici sous les yeux un texte des évangiles. Si c'est nécessaire, nous pourrions nous référer à tel ou tel verset particulier, mais je voudrais d'abord préciser, le sujet de ce soir n'est pas du tout une confrontation entre la théologie chrétienne et la théologie juive. C'est pas cela. Il y a énormément de problèmes en confrontation, et il ne s'agit pas d'avoir à comparer ou à préférer telle ou telle religion à telle autre, telle ou telle théologie à telle autre, telle ou telle interprétation exégétique évangélique de l'Ancien Testament à l'interprétation talmudique de la Bible des Hébreux, mais le sujet est bien précis. Qu'est-ce qu'entend une conscience juive traditionnelle dans ce que dit la conscience chrétienne lorsqu'elle dit ce en quoi elle croit? Et alors là, dans le récit de la Passion, je me bornerai à rappeler le minimum essentiel qui puisse convenir à quelque orthodoxie chrétienne que ce soit, qu'elle soit catholique, protestante ou orthodoxe. Il ne s'agit pas du tout d'entrer dans les nuances de la manière dont un catholique ou un protestant ou un orthodoxe ou d'autres sectes chrétiennes ou d'autres églises chrétiennes, il y en a d'autres encore, comprennent comment, par ce qui s'est passé sur le Golgotha et non plus sur le Moria, cette fois, selon ce récit des évangiles, le monde est sauvé. Et ce qui est l'essentiel de la foi chrétienne. Il s'est passé quelque chose sur le Golgotha dans lequel, en principe, symboliquement, déjà dans l'ordre de l'espérance par la foi, le monde est déjà sauvé. Qu'est-ce qui est raconté? Alors, je commence d'abord par montrer les ressemblances. Là aussi, il y a un père et un fils. C'est les ressemblances. J'aurais à dire tout à l'heure qu'en réalité, dans la compréhension juive de ce qui se passe là, eh bien, nous entendons quelque chose un peu différent. Ce qui va se passer, ce n'est pas tellement la mise à mort du fils par quel père et quel fils, nous allons le voir, pour le salut du monde, mais la mise à mort du frère aîné par les frères, par les autres frères. J'y arriverai tout à l'heure. C'est un thème différent lorsque nous l'entendons du point de vue du jugement de la conscience juive, entendant comment la conscience chrétienne exprime sa foi, le lisant dans son livre de foi, dans son texte. Mais disons d'abord, par première approximation, il y a d'abord une ressemblance. C'est Dieu lui-même qui est le Père, et c'est en cela qu'il sera nommé Dieu le Père, qui finalement, par le sacrifice de son Fils, sauve le monde. Mais il y a une différence essentielle. Dans le récit de Hakadat Yitzhak, le sacrifice n'est pas consommé. En aucun cas, l'univers de la conscience hébraïque n'est en parallèle avec ce qui est raconté dans le récit de la Passion. Ce récit de la Passion n'est pas d'inspiration hébraïque. Que l'on parle, ça ne sort pas de la Bible des Hébreux. Et je vous ai rappelé tout à l'heure Jérémie. Que l'on parle dans un vocabulaire mythique, que l'on parle dans un vocabulaire théologique ou dans un autre type de vocabulaire, il y a une rupture absolue sur ce point précis. On ne peut pas considérer le récit de la crucifixion comme le passage à la limite de la réussite de ce qui n'aurait été que comme approximation dans le récit du sacrifice d'Isaac. Parce que il n'y a pas d'homogénéité, il y a une rupture absolue dans la mentalité hébraïque, c'est l'épreuve qui est en question et non pas le passage à l'acte de la mise à mort, si j'ose dire. Vous voyez, je n'aborde pas encore le troisième point. Qu'en est-il de la réaction et de la conscience juive pour sa part, de la conscience chrétienne pour la sienne, par rapport aux événements de l'histoire qui se sont passés récemment? Pour le moment, nous allons parler des événements d'histoire qui se sont passés il y a 2000 ans, au moment où la foi chrétienne apparaît. Voilà donc ce que je voudrais dire très schématiquement. Dans un cas, le récit du chapitre 22 de la Genèse, le sacrifice d'Isaac, sacrifice entre guillemets, le sacrifice n'a pas lieu. Alors que dans l'autre cas, au contraire, il a lieu. Mais il y a encore une autre différence qu'il faut mettre en évidence. Admettons même qu'un chrétien ait lu le récit du sacrifice d'Isaac comme l'approximation d'un sacrifice qui aurait dû être accompli. Il s'agit d'un père qui aime son fils, Abraham et Isaac. Vous vous rappelez du verset par lequel ce récit est introduit? Je le cite en hébreu et je le traduis immédiatement. Kachna et bincha et yechidcha asher ahavta et Yitzhak asher ahavta. Prends donc ce fils que tu aimes. Il s'agirait, à la limite, c'est encore une fois une hypothèse, mais il s'agirait d'un acte sacré, d'un holocauste dans le sens noble du terme. Le bourreau, le sacrificateur, disons, il n'y a pas de bourreau dans le sacrifice d'Isaac, disons, le sacrificateur aimant la victime, dans les poèmes traditionnels, surtout ceux de Yamim Noraim, des poèmes de la liturgie traditionnelle, racontant la Hakeda Titzrak, il y a en particulier ce refrain qui revient, Oked Vehanea Ekad Vehamisbeach, le sacrificateur, la victime et l'autel. Et vous voyez, j'ai traduit le sacrificateur en hypothèse, mais ce qu'il y a écrit, c'est Oked, celui qui a attaché, celui qui s'est laissé attacher. Il y a une relation d'amour entre celui qui a opéré cet acte d'attacher et celui qui s'est laissé attacher. Alors que dans le récit de la Passion, il y a, surtout imputé aux Juifs, une atmosphère de haine absolue. C'est un récit d'une torture infamante. C'est, par exemple, ce thème qu'il s'agit du supplice romain que Rome inflige à ses ennemis, et il y a cette scène de la crucifixion entre les deux larrons, et on nous indique toute une atmosphère d'infamie, de torture, ça n'a rien à voir. Donc cette hypothèse, et qui pourrait nourrir cet thème, l'Ancien Testament comme préfiguration avortée de ce qui s'accomplit vraiment dans le Nouveau Testament, est impossible à lire. Il n'y a pas du tout de ligne de continuité entre le premier récit et le deuxième. Il y a le passage de la mentalité hébraïque à une toute autre mentalité parlant du même thème à sa manière et l'imputant à l'histoire d'Israël. Je voudrais dire tout de suite quel est mon sentiment personnel à ce sujet. J'ai assez attentivement étudié ces textes. Bien entendu, encore une fois, je les ai lus et étudiés, je parle des textes des évangiles, du point de vue du regard d'un juif informé de la tradition juive. Et je vais essayer de vous décrire très rapidement ce que je pense à ce sujet, mais vous dire tout de suite, du point de vue de la méthode, que je n'aurais probablement pas eu le courage d'aborder ce thème, parce que c'est vraiment un thème extrêmement délicat. S'il y a quelque temps, je n'avais pas lu un livre important qui vient de paraître, qu'a écrit René Girard, et qui s'appelle « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». Et je vous dirai tout de suite, c'est un très grand livre, très fort. Il faudrait même trouver des adjectifs spéciaux pour lui. On n'a pas le droit, et je n'ai pas le droit de parler de ce livre en quelques phrases. Et il faut le lire et l'étudier pour lui-même. Il y a un bouillonnement de remise en question d'énormément de problèmes et de thèmes et de catégories, tant au niveau théologique qu'anthropologique, ethnologique et exégétique. C'est un livre très important dans l'histoire de la culture occidentale, à mon sens. Mais je vous dirai tout de suite, c'est le livre le plus anti-juif qu'il m'a jamais été donné de lire jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il y aura pire après. Et c'est de ce point de vue-là que je voudrais vous parler. Tout à l'heure, je vous lirai quelques citations. parce qu'il est pour moi la preuve que le mythe chrétien, cette fois j'ai employé le terme de mythe, vous verrez pourquoi, le mythe chrétien est toujours vivant. Et ceci est une œuvre de cette conscience chrétienne que je vais essayer de décrire par rapport à notre problème. Qu'il est toujours vivant et qu'il est basé sur, ce sera l'exégèse de ce problème que je vous proposerai, sur le fait que le monde ne peut être sauvé que par le consentement de la victime expiatoire qui expie les péchés du monde. Mais que cette victime expiatoire, c'est le peuple juif. En effet, il y a là toute une exégèse de l'expression linguistique même, judéo-chrétienne, telle qu'elle est employée dans ce livre, qui éclaire tout notre propos. On ne sait pas très bien, mais on le comprend assez rapidement. Si lorsqu'on dit judéo-chrétien, ça veut dire les choses qui sont communes aux juifs et aux chrétiens, ou si ça veut dire tout à fait autre chose, que les véritables juifs sont les chrétiens, et qu'il y a eu le temps hébraïque, puis, de façon concomitante, la conscience judaïque, et là c'est péjoratif, ça veut dire les pharisiens qui ne deviendront pas les chrétiens, et puis les véritables hébreux, c'est-à-dire les véritables juifs, qui sont les judéo-chrétiens, finalement les chrétiens. Il y a une espèce de témoignage d'annulation de l'existence du peuple juif comme tel, et d'annexion, d'assomption, je ne sais pas quel mot employer, mais vous suivez l'idée, j'espère, de ce que la Bible hébraïque a apporté au monde, mais à titre de ce que la conscience chrétienne, s'en emparant, va en faire, contre l'existence du peuple juif et de sa propre tradition, lui, peuple juif, en tant qu'héritier des Hébreux, mais avec de nouveau et renouvelé de façon magistrale et géniale l'argumentation de l'antipharisaïsme de la lecture évangélique classique. Et voici donc, mais ça j'y arriverai en dernière position. Je crois que pour éclairer notre problème, il faudrait tout un séminaire à ce sujet, éclairer ce qui est dit dans cette expression judéo-chrétien. Et c'est cette espèce de fluence, de passage. Il y a d'abord les Hébreux, et René Girard dit avec beaucoup de grandeur, il l'avait déjà fait d'ailleurs il y a quelques années, dans son livre sur la violence et le sacré, et où il a repris tous ces thèmes dans un numéro spécial d'esprit, dans un numéro pas spécial d'esprit de novembre 1973, et où il montre que la manière dont la conscience hébraïque s'est reliée au problème de l'agressivité et de la violence s'oppose radicalement à tout ce qui a pu être l'ensemble des mythes de toutes les sociétés qui, eux, privilégient la violence comme divinité, alors que la conscience hébraïque, au contraire, voit le divin du côté de la victime et non pas du côté de l'assassin. Mais il y avait là déjà un bouleversement du problème. Mais là, vous voyez, ce qui s'est révélé à moi, c'est ceci. C'est-à-dire, on parle donc, on va d'abord dire la grande louange de la conscience hébraïque s'opposant à l'humanité païenne et fondant la religion du Dieu qui est la victime sacrificatoire, la victime expiatoire. Et puis, très rapidement, alors on nous prend par la main et on nous montre qu'il y a le temps judaïque qui va devenir renégat à cette conscience hébraïque de l'ancien, qui s'ébauche dans l'Ancien Testament. Et puis à côté du temps judaïque, qui va donner lui le judaïsme et le peuple juif, il y a les judéo-chrétiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire quelque chose qui serait commun aux juifs et aux chrétiens? Mais très rapidement, on nous montre qu'il n'y a que la conscience chrétienne qui est la conscience hébraïque authentique. Il y a là un assassinat du peuple juif par omission. Mais cette omission, elle est tellement massive que cela m'est apparu comme étant une œuvre de la conscience chrétienne telle que la conscience juive y avait toujours assisté depuis l'origine. Je reprendrai donc ce point par citation, mais je veux dire pourquoi c'est le fait d'omission qui m'a frappé. Il y a une bibliographie très sophistiquée. Alors, il y a un hommage rendu à beaucoup d'écrivains juifs contemporains. Il y a un silence absolu sur tout ce qu'est la tradition juive dans ce qu'elle a dit de ces thèmes-là. Un silence absolu. Le Midrash, on ne sait pas ce que c'est. Le Talmud, on ne sait pas ce que c'est. Toute la littérature rabbinique, on ne sait pas ce que c'est. Mais on cite M. Neher, dans la bibliographie. On cite M. Lévinas dans la bibliographie pour dire qu'on a lu ses livres ou qu'on peut les lire, mais ils ne sont pas du tout utilisés là-dedans. Il y a deux autres missions aussi qui m'ont frappé. Ce n'est pas le sujet de ce soir de faire l'exégèse de ce livre. Je veux simplement le situer dans sa force. D'ailleurs, c'est un livre extrêmement fort, mais dans la problématique de notre sujet. Et parmi les thèmes très importants qui sont donnés dans ce livre, il y a deux auteurs contemporains qui ne sont pas cités, mais qui sont là présents dans ce qu'eux ont renouvelé dans la culture contemporaine. C'est d'une part le père Jousse et tout son enseignement d'anthropologie du geste sur la mimésis, sur le mimétisme, et ce qui fait un des grands thèmes de René Girard. Il est possible que René Girard ne connaisse pas le père Jousse. C'est possible, mais alors à ce moment-là, il y a un mystère, c'est le caractère sophistiqué de la bibliographie. Et puis d'autre part, le mythe judéo-chrétien de Carlo Suarez. Je ne partage du tout pas les thèmes ni du père Jousse, ni de Carlo Suarez, mais enfin, ou bien. Et voilà ce qui me frappe. Il y a dangereusement trop d'œuvres magistrales de cet ordre qui continuent dans cette lancée de l'assassinat du peuple juif et de sa tradition et de son histoire et de son existence par omission. Mais c'est ça le mythe de la crucifixion. C'est ce que je voudrais essayer d'expliquer ce soir. C'est une omission massive, tellement évidente. Comment dans un pays comme la France où la culture juive, ça existe, formulé en français, on puisse ignorer que le Midrash a traité de ces thèmes. Ça me rappelle, lorsque j'étais jeune étudiant en philosophie, une chose qui m'avait frappé, c'est une toute incidence anecdotique que je cite comme illustration, c'est le grand livre de Bergson, Matière et mémoire. Bergson m'est revenu, toute sa bibliothèque entière, les deux sources de la morale et de la religion. Bergson était un grand philosophe, je peux dire un philosophe génial, même s'il est, je ne sais pas s'il est à la mode ou s'il n'est pas à la mode, peu importe, c'est notre problème. Mais il est un philosophe sérieux. Chaque fois qu'il traite d'un sujet, il l'étudie, il le prépare, il est minutieux. Dans l'évolution créatrice, précisément, il a fait énormément de travaux préalables pour citer telle ou telle indication d'ordre scientifique de son temps. Et lorsqu'il parle de la morale talmudique, il n'y parle pas le Talmud. Il en parle par prétérition de calomnie et de intégrer comme si ça va de soi. C'est pas sérieux. Vous comprenez, lorsque le destin d'un peuple est en jeu, c'est plus que pas sérieux. Et vous comprenez pourquoi c'est l'atmosphère de l'Holocauste qui me fait parler avec véhémence, mais je crois que c'est ça le fond du problème. Il y a trop dangereusement cette espèce de complaisance avec soi-même qui consiste à croire que c'est arrivé, que la culture occidentale, à travers la théologie chrétienne, a assumé l'identité hébraïque et les juifs. Eh bien, les juifs, ça gêne. Bien, alors voilà donc l'analyse que je voudrais faire. C'est ceci. Je crois que les rédacteurs des évangiles ont voulu laisser un message qui est décryptable, pas seulement par ceux qui vont devenir les fidèles de la théologie chrétienne et de son expérience religieuse propre, mais aussi par les juifs eux-mêmes, au courant des sources du devant desquelles le discours évangélique est sorti, c'est-à-dire les sources rabbiniques, les sources du Midrash rabbinique, de la manière dont les rabbins de ce temps-là, c'est-à-dire de ces 400 ans du temps de la Mishnah, ont eux compris le message des prophètes hébreux, leurs ancêtres. Et je voudrais rappeler un point d'histoire. Il y a 400 ans entre la fin de la prophétie hébraïque et le discours des premiers apôtres. Et il y a là, je dirais comme ça, un malentendu, mais ce n'est pas un malentendu. On nous présente le schéma suivant. Le tronc hébreu et puis deux bifurcations. La conscience évangélique, chrétienne, et la conscience juive, pharisienne, talmudique. Mais entre le temps des Hébreux et l'apparition de la conscience chrétienne, il y a 400 ans, et un temps culturel de 400 ans, et ces 400 ans, c'est les 400 ans de la Mishnah, et du Midrash, et de la Kabbalah. Et un temps culturel de 400 ans, c'est énorme. En réalité, l'expérience chrétienne dans sa bonne foi propre, dans sa... Encore une fois, je ne mets pas en question la pureté d'intention du chrétien croyant dans ce en quoi il croit. C'est sa religion, c'est son expérience. Il y a un Dieu unique qui a créé toutes les sociétés humaines et leur culture et leur religion. Il y aura un bilan au jugement dernier. Mais je vous parle de la réaction d'une conscience juive sur ce que dit la conscience chrétienne de ce problème. Et bien entendu, je sais que la tradition catholique, pour sa part, a essayé de combler ces 400 ans par l'ensemble des livres qu'on appelle les apocryphes. Et vous savez aussi que la tradition protestante a refusé ce coup de pouce, si j'ose dire. Le canon de la Bible protestante, c'est le même que le canon de la Bible, grosso modo. Enfin, il y a des petites différences. Parfois, les numéros des psaumes ne sont pas les mêmes. Le découpage des chapitres ne sont pas les mêmes. Ce sont d'autres problèmes un peu périphériques. Mais la tradition protestante a refusé ce petit coup de pouce à l'histoire. J'ouvrirai ici, si vous voulez, une petite parenthèse. Je ne me souviens pas si nous avons étudié ce problème-là dans les séminaires précédents, en ce qui concerne ces livres apocryphes, dits apocryphes. C'est-à-dire que le canon rabbinique n'a pas retenu dans le canon hébraïque. Et lorsque le christianisme est apparu, on a demandé aux rabbins, qu'est-ce que c'est le livre de la Bible ? Les premiers chrétiens y ont ajouté tous ces livres apocryphes pour faire la soudure entre le dernier des prophètes, Malachi. Je ne parle pas de Saint Malachi qui a prophétisé sur la fin de la dynastie des papes, mais le moine. Mais je parle de Malachi, le prophète de la Bible. Et là, il y a une Mishnah dans le traité de Sanhédrin, le 11e chapitre de Sanhédrin, qui dit ceci, « Akore bisfarim chitzonim en lo chelek la olam haba ». Tout Israël a part au monde à venir. Et puis, vous connaissez l'autre Mishnah, et les justes des nations ont part au monde à venir. Mais à propos de la première formule, alors la Mishnah va dire une chose étonnante, et celui qui lit dans les livres apocryphes n'a pas droit au monde à venir. Énorme, une bombe. Hein. Le Créateur a donné part au monde à venir à ses créatures, et voilà que la tradition rabbinique de la Mishnah intervient et nous dit qu'on peut perdre le monde à venir en lisant des livres qu'il ne faut pas lire. Qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous savez que dans la tradition juive, on n'a jamais excommunié quelqu'un pour ses idées, et à plus forte raison pour ses lectures. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce problème ? Et je vous citerai l'enseignement de mon maître, le Rav Kook, à ce sujet. La Gemara, avec beaucoup d'humour, étudie la Mishnah de la manière suivante. La Mishnah dit, et celui qui lit Bisfarim Chitzonim, dans les livres extérieurs au canon, les livres apocryphes. Et elle dit, par exemple, quoi ? Et elle cite un verset de ces livres qu'il ne faut pas lire. Donc elle les a lus. Elle nous oblige à les lire. Le Rav Kook nous a expliqué cela de la manière suivante. À Corée, ça veut dire celui qui considère comme Mikra, celui qui considère comme révélé un des livres extérieurs au canon des livres révélés. C'est pas plus difficile que cela. Et je vous donnerai une illustration par exemple. C'est-à-dire, vous savez que c'est l'expression talmudique. Ra'im ragil likro kore. Si c'est un homme qui est habitué à étudier dans son étude, surtout le mikra, les écritures, comme on dit en français, mikra en hébreu, ça veut dire la lecture, c'est-à-dire la Bible, le texte de la Bible, alors, il étudiera le texte de la Bible. « Im ragil lishnot shone » Si c'est quelqu'un qui est habitué à étudier la Mishnah, il étudiera la Mishnah. Ce sont deux termes hébreux différents pour dire « étudier ». Lorsqu'on dit « étudier » le texte de la Bible, on dit « koré ». Lorsqu'on étudie le texte de la tradition orale, on dit « shone ». Par conséquent, « à koré bisfarim chitzonim », ça veut dire « celui qui lit un de ces livres apocryphes en les considérant comme révélés ». Pourquoi ? Et voilà ce que le Rav nous a expliqué. Prenons un exemple. Dans le livre apocryphe, il y a le livre de Judith. Et on raconte une histoire qui est une histoire de foi. Et le livre de Judith ou le livre de Tobie. Et alors donc, celui qui considère que le livre de Tobie est révélé comme le livre de Jérémie, ça veut dire qu'il considère que le livre de Jérémie est révélé comme le livre de Tobie. Alors ça ne fait pas le poids. Vous voyez ? Ça veut dire que il considère aussi que les livres des prophètes sont de cette sorte, c'est-à-dire des livres de foi. Il y a une différence de nature entre des livres de foi et les livres de la prophétie révélée. C'est cela ce que l'on veut nous indiquer, particulièrement dans cette Mishnah. Bien, j'ai rien vu. Et là, je vous donnerai un exemple. J'en discutais une fois avec un de mes amis chrétiens. Pour lui donner un exemple, je lui dis ceci. Il est bien évident que un chrétien considérera les pensées de Pascal comme un livre de foi. Mais est-ce qu'il lui viendrait à l'idée d'inclure les pensées de Pascal dans les évangiles? Non, il y a quand même une différence de nature. Mais pour nous, c'est à peu près la même chose à notre niveau. Là, les évangiles, toute la littérature évangélique sont des livres où la conscience chrétienne dit sa foi. Nous ne pouvons, nous, pas considérer cela comme des livres révélés, ce sont des livres de foi. De même, pour toute cette littérature apocryphe, ce sont des livres de foi, mais ce ne sont pas les livres de la prophétie. Tout ceci pour éclairer l'importance de ce temps culturel de 400 ans. En réalité, l'expérience chrétienne n'a pas surgi comme rivale de la juive de l'expérience hébraïque, des prophètes hébreux de l'Ancien Testament, comme dit le chrétien. Elle a surgi en hérésie de la tradition pharisienne. Elle a surgi en tension, je ne sais pas comment dire, en contestation de la tradition juive des 400 ans du judaïsme de la Mishnah. Bien, je referme cette parenthèse. Je vais, d'une certaine manière, me baser, tout en restant dans l'ordre de l'analyse de notre sujet, sur un des thèmes du récit de la Passion. Vous savez que dans le vocabulaire de ce que les chrétiens nomment l'Ancien Testament, je dirais la Bible, eh bien, cette notion que Dieu a un fils, elle est dite par la prophétie hébraïque. Mais elle concerne le peuple d'Israël. Et c'est toutes ces expressions où Dieu, par la bouche du prophète, parle d'Israël comme « Béni Bechori », « Mon fils aîné ». Première découverte qu'il faut faire, s'il y a un fils aîné, c'est qu'il y a d'autres frères. Les autres aussi sont des fils. Mais voilà ce qui nous vient du diagnostic de la prophétie hébraïque, il y a un fils aîné. Bien. Alors, ce que je voudrais dire là est clair. Et l'hébreu a toujours entendu cela en hébreu simple. Dieu parle d'Israël, c'est ce que l'histoire a fait de l'histoire de chaque société humaine. Et je crois que le chrétien commence premièrement par admettre les postulats de la cohérence de l'enseignement biblique précédent qu'il admet comme étant la base de sa propre foi. Dieu parle d'Israël comme son fils aîné. Mais ça veut dire que les autres aussi sont des fils. Ce sont des frères du fils aîné. C'est quoi? C'est-à-dire les autres nations, les nations, les autres manières d'être homme, les autres sociétés humaines. C'est l'habitude du vocabulaire hébreu de la Bible de parler de la relation créateur-créature dans l'ordre de la relation père et fils. Créer, ça veut dire faire fils. Et donc, c'est la créature comme telle qui, dans le vocabulaire hébreu, est appelé le fils. Mais cela concerne, dans la prophétie hébraïque, Israël comme manière d'être homme, un peuple, une société, une matrice d'engendrement qui a fait émerger la conscience morale déjà du temps des Hébreux dans l'histoire universelle. Vous savez que dans les querelles théologique des théologiens juifs par rapport aux théologiens chrétiens ou des chrétiens par rapport aux théologiens juifs, lorsqu'on se réfère à toutes ces disputations d'exégèse sur ces textes, alors la position des théologiens juifs est de dire de façon classique que ce que les évangiles disent du Christ, en réalité, il faudrait le dire d'Israël. Ce que je voudrais ajouter ce soir, c'est ceci. Et autrement, je n'aurais rien de tellement nouveau à vous dire. C'est que c'est aussi l'intention des rédacteurs des évangiles. Dans la forme qu'ils ont donnée à leur récit, ils traitent de l'histoire d'Israël telle qu'ils la considèrent. Le récit de l'histoire du Christ dans les évangiles, c'est le récit de l'histoire d'Israël, telle que la conscience chrétienne va la percevoir. Et il faudra donc remercier René Girard de l'avoir tellement bien mis en évidence. Et mais avec la projection d'une mentalité radicalement païenne, du mythe de la violence consommée, projetée dans le récit de la Bible hébraïque antérieure. Et je voudrais vous le montrer assez rapidement. Si vous voulez, s'il y a un chidouche dans cette analyse, quelque chose de nouveau peut-être dans cette analyse, je crois que c'est cela. Que c'est l'intention même des rédacteurs des évangiles de raconter pour le monde qu'ils vont évangéliser l'histoire du peuple juif telle qu'ils la voient. Il me suffit de dire, et telle qu'ils y croient pour le salut du monde. Et il me suffit de dire, de rappeler simplement une remarque historique, dans quel temps nous étions. C'était dans le temps où Rome crucifiait la Judée. En ce temps-là, Rome assassinait la Judée. Et puis, il y a là la résurgence du mythe païen que la victime expiatoire doit mourir pour le salut de la société que l'on veut fonder, et de telle sorte d'être déculpabilisante de l'agressivité, de la violence nécessaire pour installer une société où les rapports entre les hommes seraient basés sur la loi de la société. C'est pourquoi dans la typologie traditionnelle juive, Ésaü, c'est Rome. C'est d'abord la Rome impériale, la Rome païenne, la Rome qui crucifie la Judée. Mais ça continue à être, en deuxième étape, en deuxième formulation, en deuxième moment, la Rome chrétienne. Parce que précisément, il y a là la perception de l'histoire d'Israël comme devant être une crucifixion expiatoire du monde. J'espère avoir dit très sobrement, enfin je veux dire très rapidement, l'essentiel, c'est ceci. La conscience de la culture de ce temps, mais de problématiques romaines et non pas de problématiques hébraïques, a perçu dans l'histoire du peuple juif de ce temps ce qu'elle raconte dans le récit de la Passion. Ce que j'ajoute comme exégète, si vous voulez, comme commentateur, et là je suis prêt à m'en expliquer, mais je vais vous donner au moins un exemple, c'est que c'est très consciemment que les rédacteurs des évangiles ont raconté dans la figure, c'est pourquoi j'ai dit mythique, de l'histoire du Christ, l'histoire d'Israël telle qu'il le voit dans ce mythe-là. C'est-à-dire qu'on demande à Israël d'accepter la crucifixion pour le salut du monde et d'annuler sa spécificité de peuple juif pour sauver l'humanité entière, de telle sorte que ce que les promesses et l'alliance qui lui étaient données comme peuple hébreu concerne l'humanité entière qui sera sauvée dans la mesure où elle communiera dans ce que nous appelons un mythe païen, un rite païen, dans la mesure où elle communiera avec le fait d'être la victime de la violence, et c'est déculpabilisant, et c'est salvateur, et c'est... Bon, j'ai bien conscience d'avoir été peut-être trop limite dans le vocabulaire que j'ai employé, mais c'était pour être clair, tout simplement. Ceci dit, à l'échelle individuelle, sachez que nous percevons, que nous comprenons ce qu'il y a comme ferveur religieuse dans la croyance chrétienne qui ne sait pas cela, qui n'a pas cela en conscience, qui n'a pas cela en conscience. Si ce livre n'avait pas paru, je ne crois pas que j'aurais eu la chutzpah, si vous voulez, de parler de façon aussi simple et aussi carrée. Mais je voudrais vous dire vraiment que c'est ainsi que le peuple juif a toujours entendu l'apparition de l'identité chrétienne. C'est-à-dire que c'est le Romain se convertissant à ce qu'il y a de perceptible pour lui dans le récit du sacrifice d'Isaac, mais le faisant vivre au peuple juif. Et c'est cette histoire-là qu'il raconte. Alors, la question historique précise, y a-t-il eu un personnage individuel qui s'appellerait Jésus-Christ, ou qui s'appellerait le Christ, ou qui s'appellerait Jésus? Ce sont d'ailleurs dans les récits évangéliques, à des niveaux différents, quatre histoires parallèles qui s'entremêlent, l'histoire de Jean-Baptiste, l'histoire de Jésus, l'histoire du Christ, et l'histoire de celui qui est l'un et l'autre, Jésus-Christ. Si vous avez intérêt pour ces problèmes exégétiques, vous remettrez vous-même ces quatre registres à leur place. Et on raconte les mêmes choses, mais dans des registres différents. Et il y a suffisamment d'ailleurs d'indications dans saint Paul qu'à la fin des temps, la conscience chrétienne elle-même sera éclairée de ce qui était caché depuis les commencements du christianisme. Et que l'on verra bien en ce temps-là que c'était bien ce peuple, c'est-à-dire le peuple juif, qu'appartiennent les patriarches, les alliances et la loi et les promesses. Il y a des clés dans les serrures, si j'ose dire. Mais je veux simplement brosser un tableau très général à partir du premier chapitre de Matthieu. Et là, je me réfère à quelques mises au point que nous avons eues à propos de l'histoire de Joseph. C'est ceci. Vous verrez, si vous étudiez la généalogie qui nous est donnée dans le premier chapitre de Matthieu, que on veut nous donner une généalogie qui va du premier homme, pardon, que j'ai le texte sous les yeux, que je me trompe pas, je crois d'Abraham, oui, d'Abraham jusqu'au Christ. Et alors, on nous la montre en trois groupes de 14 générations. Et il y a là un thème emprunté au Midrash juif rabbinique, que le temps de l'histoire d'Israël se décrit d'après les phases de la lune, et il y a apogée au 14e jour du mois, et donc il y a, si vous voulez, un rythme de trois moments de 14 générations. Le premier paragraphe des premières 14 générations, qui va de Abraham à David, et puis là, la généalogie est formulée de la manière suivante. Abraham a engendré Isaac. Jusque-là, ça va très bien. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas et ses frères. Retenez bien l'expression dans le premier paragraphe de la généalogie de Matthieu. Jacob a engendré Judas et ses frères. Et puis ça va jusqu'à David. Ensuite, deuxième groupe de 14 générations, de David à Zorobabel, de David à la destruction du premier temple. Et troisième groupe de générations, de la destruction du premier temple. Alors, vous verrez, vers la fin de ce troisième groupe des 14 générations, un certain Matan engendre un certain Jacob, qui engendre un certain Joseph, lequel est l'époux de celle dont on dit qu'elle est la mère de celui dont on dit qu'il est le Messie. Et alors là, on est frappé. On est frappé. On voit que le rédacteur de Matthieu veut nous faire comprendre quelque chose. C'est qu'il y a d'abord eu la lignée du judaïsme. C'est-à-dire la messianité telle que le judaïsme l'a comprise. Et elle nous est donnée au nom de Judas. Vous voyez ? On s'attendrait déjà dans le premier paragraphe à l'expression Joseph et ses frères. Non, non, c'est Judas et ses frères. Mais ensuite, nous voyons de nouveau qu'il nous faut un certain Jacob qui engendre un certain Joseph qui, lui, est le père terrestre, historique. Enfin, pas le père, disons le mari de la mère. Qui doit s'appeler Joseph. Là, ça nous renvoie à un thème du Midrash rabbinique très clair pour les enfants des Talmud et Torah, dont les maîtres ont étudié, et qui est qu'il y a deux lignées messianiques dans la tradition juive, qui nous sont racontées très en détail dans le Midrash sur l'histoire de la famille de Jacob le patriarche. Dans la famille de Jacob, le patriarche, deux forces messianiques s'entremêlent et s'entrechoquent. Et tout le récit de la historique de la Torah, c'est pour nous montrer quelle est la tentative de la messianité selon Joseph et quelle est la tentative de la messianité selon Judas, et que c'est la messianité selon Judas qui est l'ultime, l'authentique et celle qu'il faut suivre. Je le dirai très brièvement, je voudrais vous laisser le temps, si j'ai dû sûrement dire énormément de choses obscures, je ne m'en rends pas compte, mais si vous avez des questions à poser. Très très rapidement, l'histoire de Joseph nous montre l'identité hébraïque quittant la maison d'Israël hébreu pour aller féconder, sanctifier, c'est sa tentative, Joseph, la culture contemporaine extérieure. Il va en Égypte pour devenir le sauveur de l'Égypte. Je parle de Joseph et Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, c'est-à-dire de la famille historique des Hébreux. Et alors que Judas et ses frères s'opposent à cela, que se passe-t-il très rapidement historique, du point de vue du moment de l'histoire ? Cette famille de Jacob a déjà eu l'expérience de l'exil. Elle a déjà eu l'expérience de cette vocation diasporique, exilique, qui consiste à aller là où est la civilisation pour la féconder, la faire fructifier, la sanctifier. Et ça, c'est l'histoire de Jacob et de sa famille chez Laban, son oncle, qui est son beau-père. Et vous reverrez très attentivement le contenu du texte, et Laban lui-même le dit à Jacob, Jacob amène la bénédiction là où il est. Il multiplie les troupeaux, tout est béni, la fécondité. Déjà, Laban diagnostique cela. Lorsqu'il l'accueille, il lui dit « Bo Beruch Hashem, viens béni du Seigneur. Tu apportes la bénédiction. » Vous retrouverez la même ligne. Lorsque Joseph est en Égypte, le mot de bénédiction éclate partout. Joseph est en Égypte, cette civilisation est bénie et transfigurée. La famille de Jacob avait déjà l'expérience de l'histoire de l'exil jusqu'au bout. À la fin de l'histoire de l'exil de Jacob chez Laban, apparaît l'antisémitisme avant la lettre, et Jacob doit s'enfuir sous peine de Shoah, sous peine d'Holocauste. Et Laban nous dit très clairement, et là nous sommes encore dans les commencements, « Si ton Dieu ne s'était pas révélé à moi pour me dire « Ne le touche pas, je t'aurais tué. » Et c'était son oncle et son beau-père. Hein. Alors, tous les enfants de Jacob, dont la principale figure est Judas, étaient adultes. Ils ont fait le bilan de cette histoire de l'exil de Jacob chez Laban. Et ils ont décidé de mettre fin à cette tentative de type diasporique, de rentrer à Jérusalem, construire la maison d'Israël en hébreu. Joseph naît à ce moment-là. Joseph est né à la fin de l'exil de Laban. Et lui reprend le rêve de l'autre dimension qui vient aussi des patriarches, d'aller tenter la sanctification du monde dans la culture extérieure. Ça, c'est la messianité de Joseph. Et c'est pourquoi, comme vous le savez, et il essaye jusqu'au bout. Mais un jour arrive où le diagnostic, il faudra décrocher, il faudra partir. Il dit à ses frères, et quand Dieu se rappellera de vous et vous ramènera à Jérusalem, ne le laissez même pas mon sarcophage ici. Ramenez tout. C'est-à-dire, il voit déjà. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que cette problématique de ces deux consciences de la messianité, c'est la juive, fidèle à l'identité hébraïque, la chrétienne, voulant extrapoler à l'échelle d'une alliance universelle ce qui a été primitivement l'alliance des Hébreux, ce conflit entre la messianité chrétienne et la messianité juive, sur ce point de l'analyse, il y a mille autres conflits entre nos deux théologies, c'est un autre problème. Eh bien, nous est déjà raconté par la Bible, lorsqu'elle nous raconte ce qu'il arrive de la force messianique de la famille de Jacob, par Judas et par Joseph. Et vous voyez donc quelle est la définition de ces deux catégories, le Messie de Joseph, le Messie de Judas. Alors, qu'est-ce qu'a voulu faire le rédacteur de Matthieu dans son troisième paragraphe?